On est aujourd'hui Yutret Rejvan, c'est l'Aïloula de Rabbi Israël, vers au dessert, le Baal HaPetek, Nanach Nachman Nachman Mouman, c'est l'anniversaire de Yaël, Yom Houledet Sameach. Alors, je me suis dit, bon, on va parler de Rabbi Israël, et Mina Shamaim, on m'a raconté une très belle histoire, et c'est incroyable la vie, parce que j'espère que je vais tout bien vous raconter. Pour vous raconter, Bémet, la grandeur, qui était Rabbi Israël. Et c'était quoi, Bémet, toute la force de la Torah de Rabbeinu. Alors, c'est un monsieur, c'est quelqu'un... Qui c'est qui me l'a raconté? On me l'a envoyé, c'est l'ami, le mari d'une très bonne amie à moi, Boker Tov, qui est aux États-Unis et qui part souvent comme ça aux États-Unis pour essayer de vendre ses livres et tout ça. Et là, actuellement, il est aux États-Unis. Et donc, Shabbat, là, qui est passé. En général, il passe Shabbat à Montsé. Et là, c'était Mina Shamaim, parce que Bémet, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Il a dû partir à Borough Park. Et quand il s'est aperçu que de l'heure, il s'est dit, si je pars maintenant à Borough Park, à Montsé, je vais être en retard. Donc, je vais rester sur Borough Park. Que ça, c'était vendredi tout ça. Donc, il est resté à Borough Park. Mais maintenant, bon, il connaissait pas beaucoup de gens et tout ça. Et il voulait pas, tu sais comment c'est. Tu veux pas être, quand déjà t'es loin de chez toi et tout, tu veux pas être trop comme ça à droite, à gauche. Bon, il s'est dit, je vais appeler mon ami, un ami qui connaît là-bas, un chassid. Et il lui a dit, est-ce que je peux venir chez toi et tout Shabbat? Il lui a dit, écoute, mais Simcha Rabba, la seule chose, c'est que Shabbat matin, la Seouda de Shabbat, on est exceptionnellement invité, parce que vous savez qu'à New York, les gens, c'est bien Nara et Nachnasatorim, on ne peut pas imaginer là-bas. On doit apprendre de ces gens-là. Et il lui a dit, exceptionnellement, on est invité Shabbat pour la Seouda, mais il lui a dit, bien sûr, tu restes à la maison et tout ça. Il a dit, d'accord, pas de problème. Donc, il est parti. Comme il ne connaissait pas trop l'endroit où il était, alors il a été s'acheter des petites choses qu'il lui fallait pour Shabbat dans la journée, pour la Seouda. Et donc, il raconte que vendredi soir, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. C'était très sympa. Et Shabbat matin, il se lève. Je vous raconte les détails. J'espère que je les ai tous dans la tête. Parce que vous allez voir comment rien n'est au hasard dans la vie et rien n'est un détail. Chaque chose s'est calculée, chaque chose s'est fait exprès. Donc, il se lève le matin et il a l'habitude, avant d'aller à la tfila, il a l'habitude avant d'aller à la tfila de lire la paracha, vous savez, j'étais targum mikra vecha targum. Il a l'habitude de lire ça, donc il s'est dit je garde mes habitudes. Il fait son truc et donc il se regarde l'heure. Chez Satmer, d'habitude, il y prie un petit peu tôt, donc il a dit tant pis, je vais chercher un autre minyan. Il était 10h du matin à peu près. Donc il sort et puis il voit quelqu'un, il demande, tu sais où c'est qu'il y a un minyan? Il dit oui, là-bas, tu vas à droite, machin, tu trouves un minyan. Il rentre donc dans un minyan, des chassidim aussi, et il raconte comme ça, il dit à sa femme, il lui dit, tu sais, je suis rentré, mais j'avais pas envie, tu vois, d'avoir l'air encore de ce juif, tu sais, qui vient de Roule et que quelqu'un va l'inviter. Et des fois, t'as pas envie d'avoir ce truc-là. Donc il s'est mis dans son petit coin, il a fait la tfila. Et puis, juste au moment de la fin de la tfila, maman, sur la pointe des pieds, comme ça, il est sorti pour rentrer justement dans son chez lui, pour manger sa petite Seouda tout seul, tranquille. Et en sortant, donc, il y a quelqu'un qui le rattrape et lui dit, Yédid, tu veux faire juif, en yiddish, oui, il lui dit, tu veux compléter Minyan, tu es le 10e, c'est pour faire Kaddish. Alors lui, il dit, bien sûr, Bevadaï, je viens. Donc il retourne, il complète là-bas dans un truc Kaddish. Et puis, au moment de partir, il lui dit, ce monsieur, on va l'appeler ce monsieur Nahum, d'accord? On va donner des noms. Ce monsieur Hassid, là, ce Nahum, il lui dit, où tu es pour midi? Il dit, non, je vais rentrer. Il lui dit, non, tu es avec moi à midi, tu es mon invité. Je veux que tu viennes. Et puis il a senti comme ça une certaine chaleur humaine. Donc il a dit, bon, d'accord. Alors, ils vont comme ça sur la route et au moment de rentrer dans l'immeuble, il lui dit, rentre, installe-toi, j'arrive, je vais juste chercher mon voisin qui est aussi mon invité à midi. Alors maintenant, c'est là que ça commence. Donc, notre ami rentre. Il s'appelle Rav Yitzhak, le français. Donc, il rentre chez lui. Et dès qu'il rentre dans la salle à manger, la première chose qu'un juif, Yirei Shamayim, il fait, il rentre, il regarde toujours tout de suite la bibliothèque du Balabait. Quel livre il a? Est-ce qu'il y a des livres que je peux voir et tout? Et là, qu'est-ce qu'il voit dans la bibliothèque? Donc, on est à Boropark, chez un chassid, c'est un chassid Rabad, d'accord? On est à Boropark, chez un chassid, et il voit un gros livre rouge, le Kitvé de Rabbi Israël. C'est quoi le Kitvé? Le Kitvé de Rabbi Nachman, c'est quoi le Kitvé? C'était un livre que Rabbi Israël a eu à cœur d'imprimer. C'était les Torot et les Tfilot de Rabbi Nachman, d'accord? Les Torot, le Likutei Moharan, certaines Torot, on l'a en français d'ailleurs, avec la Tfila qui correspond. Alors il voit ce gros livre rouge, il dit quoi? Le livre de Rabbi Israël. Maintenant, vous comprenez qu'on est donc dans la semaine de Rabbi Israël, ça veut dire, d'accord? Il est très étonné, et puis il prend le livre, ce grand livre rouge, là, le Kitvé, et il ouvre, et il voit quoi en plus? Et il voit qu'il y a écrit quelque chose. Et il dit, mais attends, c'est l'écriture de Rabbi Israël, ça? Alors, c'est une histoire inédite, hein, que tu le saches. C'est-à-dire, maman, elle s'est passée Motsech. Mais en réalité, c'est une vieille histoire, vous allez comprendre pourquoi. Et il regarde comme quoi, ben, mais c'est Rabbi Israël qui écrit. Il voit, là, c'est à mon ami Nahum, il lui marque un mot, et l'écrit, et la signature, Rabbi Israël, ben, au dessert. Alors là, lui, il est vraiment, il se dit, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire, vous comprenez qu'il ne devait pas être là. Il est là, il ne voulait pas manger le truc. Bon. Tov, le type, il arrive. Tout de suite, il lui dit, j'ai même pas laissé enlever le manteau, j'ai rien laissé. Tout de suite, dis-moi, d'où tu as ce livre? D'où tu connais Rabbi Israël? Et lui, il dit, attends, tu sais quoi? C'est une longue histoire. On va faire Netilat, qui douche Netilat, et je vais te raconter, ne t'inquiète pas. Tov, il mange comme ça, rapide, et il commence à raconter. Donc, notre ami Yitzhak, qui demande à ce Nahum, mais d'où alors tu connais Rabbi Israël? Et là, il lui raconte, il lui dit, regarde, je vais te raconter. Donc, c'est une histoire dans une histoire. Il y a la petite courte, et après, il lui dit, en 1900, attendez, je l'ai marqué, parce que pour pas vous tromper, en 1987, Rabbi Israël, il était aux États-Unis, d'accord? Il avait fait un voyage aux États-Unis. Et il était venu donc pour... il avait des choses à faire là-bas. Et il était donc à Boropark, pas loin de la maison de ce monsieur, de ce qu'à l'époque c'était un jeune couple. Et il raconte qu'un soir, c'était la nuit, la neige et tout ça, c'était l'hiver. Un soir, à 3h du matin, il se réveille et il dit à sa femme, je veux aller chez Rabbi Israël. Je veux lui donner de l'argent. Je sais que Rabbi Israël, il prend l'argent et il imprime les livres de Rabbi Nachman. Au Kertov, rentre. Alors, il y a une chaise ici. Ah oui, il y a une chaise. Ok. Alors, il lui raconte. Alors, sa femme, elle lui dit, mais il est 3h du matin. Attends demain matin. Pourquoi tu... Non, 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 non. Et là, il lui dit, non, il insiste. Je veux aller chez Rabbi Israël maintenant, lui donner l'argent. Bon, ok, il fait ce qu'il a à faire, s'habille, machin. Et comme ça, il prend sa voiture et maman, c'était difficile comme ça pour avancer, la neige et le froid et tout ce que tu veux. Et puis il voit au loin, comme ça, avec les phares, les gros phares de neige, il voit au loin une boule comme ça noire et il comprend pas. Et il avance et il voit un petit vieux. Non, c'est pas Rabbi Israël. Il voit un petit vieux en pyjama, en plein beurre de la nuit, de l'hiver américain. Tu te dis. Et il voit que le vieux, il n'est pas tout à fait dans le minyan, comme ça. Là, il le prend et tout de suite, il le ramène chez lui. Vite, vite, il le chauffe et bouillotte le thé, tout ça. Et il dit, bon, maintenant, où tu... Et puis, il a compris que le monsieur, il avait l'Alzheimer. Donc, il ne savait pas, en fait. Bon, il prend la voiture, il roule. Et puis, il voit une maison comme ça où c'est allumé. Il vient, il dit, est-ce que peut-être vous connaissez... Et là, on voit la vieille dame, une vieille dame. Oui, oui, c'est mon mari, oui, il est parti, machin, il est malade et tout, bon. Allez, Misha Maïm, donc, qui s'est levé à 3 heures du matin pour dire « Je veux aller donner l'argent », d'accord? C'était déjà pour ramener le truc. Bon.
Le petit vieux
malade. Il ramène le petit vieux chez sa femme et c'est fini. Et puis, il arrive chez Rabbi Israël et il fait là-bas, il donne de l'argent. Et alors, en partant... Et il dit comme ça, il raconte, il dit, et maintenant, le lendemain, apparemment, c'était des gens qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, d'accord? Il dit, le lendemain, il marche comme ça, ce Nahum, dans la rue, et puis il voit un homme, Et là, il raconte, il dit, c'était un homme qui était aveugle, d'abord. Il est né aveugle, mais il était complètement déformé du visage. Ça veut dire, c'est pas, vous dites, il était moche ou quoi, l'allé, non, c'était Bémet. Lui, il a dit qu'il a vu les photos, il a dit, c'est Hachem Ishmar, on se dit, comment Hachem, il a pu créer un monstre pareil, quoi. C'est un visage vraiment, on peut pas imaginer, il a dit tellement, ça fait peur, tellement c'est horrible, que les gens, ils changent de trottoir, tellement ils peuvent pas voir ça, tellement c'est terrible. Bon, il voit, et donc il rencontre ce jeune homme-là, et lui dit, et il parle un peu avec lui, et il voit que quoi, que Bémet, ce jeune homme, en réalité, c'est un homme qui est plein d'Irat Shamayim, et qui connaît toute la Torah par cœur, tout le Sefer Tehilim, mamash, ça veut dire, hormis qu'il est aveugle et qu'il est... C'est un monstre, c'est pas un être humain. Il raconte comme ça que le visage, c'est comme le visage d'un gorille, comme ça, tout déformé, quelque chose de terrible. Donc il voit que Bémet, hormis ça, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il parle, et le jeune homme, il lui dit, tu sais, je veux me marier. Lui, comme tu dis, c'est la première chose qu'on va dire, ça va être compliqué. Mais maintenant, lui, il est aveugle. Il ne sait même pas à quoi il ressemble. Tu comprends ce que je veux te dire? Il ne peut même pas imaginer à quoi il ressemble. Baruch HaShem, pour lui, il est aveugle. Il ne sait pas à quel point les gens, ils changent de trottoir. Personne ne peut supporter cette vue de ce monstre. Alors, ce juif-là, ce Nahum, Mishamayim, ça lui a pris au cœur, ça lui a touché au cœur. Et Bémet, que là, vous vous dites, c'est fou, quoi. Normalement, tu dis, bah écoute, tu l'es conduit, la personne, quoi. Tu vois, tu lui fais comprendre que c'est compliqué. Ça lui rentre dans le cœur, il lui dit, tu veux te marier? Il lui dit, ben, tu sais quoi? Je vais t'aider à trouver un chidour.
Une aveugle.
Une aveugle. Il a fait, comme nous, tu vois. Là, tu vois, c'est bien, déjà, toi, t'es plus, parce que moi, la vérité, je crois que j'aurais dit non. Mais bon, quand la cavote, attends. Bon, bien évidemment, il commence à tourner là-bas, au Borough Park. Bien sûr, tout le monde ferme la porte, même pas en rêve, personne ne peut supporter, personne... Bon. Alors, ce juif Nahum, il dit comme ça, Boker Tov Hana, il y a une chaise ici, si tu veux. Alors, ce juif Nahum, il lui dit, écoute, ce qu'on va faire, on va avoir plus de chance en Eretz Israël, peut-être. Et il prend sa femme et ce monsieur, ce jeune homme-là, et il lui dit, on va partir aux États-Unis, en Israël. Il loue donc un appartement dans le Rova Yehudi, d'accord, dans la vieille ville de Jérusalem. Et il dit, on va rester ici, on va commencer à chercher. Donc déjà, vous voyez que c'est... Enfin, je ne sais pas, je me dis, mais quelle grandeur le Ham Israël, quoi. Te rends compte, tu abandonnes ton endroit, tu vois un truc, tu ne le connais même pas. C'est incroyable, incroyable. Mais tout ça, on va voir que tout ça, c'était téléguidé depuis la création du monde. Alors, ils arrivent en Eretz, et donc ils commencent un peu à chercher, bien évidemment. Alors maintenant, ce juif, cet aveugle, ce monstre, il prie tout le temps, et donc, ce Réhouven, il va à droite, à gauche, et il cherche des Shidouchim. Bien évidemment... Au début, personne, parce qu'il le présente comme quelqu'un d'extraordinaire, un Talmid Chacham, quelqu'un de super. Chacun qui voit, ah, je peux pas, t'es fou, mais il est fou, c'est quoi ce type? Il est malade complètement. Bon, au bout d'un moment, Nahum, il dit donc à notre ami, il lui dit, écoute, tu sais, c'est pas la peine, ce qu'on va faire, on va aller dans un séminaire, on va chercher des orphelines. Les orphelines, on n'aura pas de père et de mère qui viendront s'opposer. Elle est orpheline, au moins, voilà. Ils vont dans les séminaires. Et pareil, encore une fois, c'est terrible. Personne n'en comprend, personne ne veut entendre. Et parce que les directeurs des séminaires, ils disent, mais ok, elle est orpheline, mais c'est un peu comme une fille. Jamais.
Ils ne veulent pas lui présenter,
je... Attends, il dit jamais. Il y avait des aveugles. Alors il dit, bon, on va chercher des aveugles, orphelines. Ils cherchent des aveugles, des machins, et là, pareil. Les directeurs de séminaire s'opposent, donc c'est des mois hein, pour supporter, pour chercher, tout ça. Tu comprends que le type, il est là maintenant en Israël avec sa femme, ils se sont complètement déracinés, tout ça. Mamash, un lèvre juif, comme ça, un cœur juif, tu sens la vat Israël, tu sens que tu veux aider l'autre. Mais Mais c'est Hachem qui lui a donné cette volonté. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors il lui dit, écoute, on va chercher une aveugle. Et là, pareil, ils font les tours, les machins, dada. Et pareil, c'est le veto. Les directeurs de séminaire, ils lui disent, écoute, Rav Nachum, tu es très gentil, même qu'elle est aveugle, même tout ce que tu veux. C'est comme une fille, jamais je pourrais donner ma fille à un monstre pareil. Tu es malade. Au bout de 9 mois quand même, c'est pas rien. Au bout de 9 mois, alors ce Nahum, il va voir notre ami, notre jeune aveugle. Il lui dit, écoute, tu sais, Bémet, j'ai tout essayé, j'ai tout tenté. Je te demande Mechila, je ne peux plus t'aider, je dois retourner aux États-Unis. Je vais partir, je ne veux plus rester ici. Alors notre aveugle, il lui dit, écoute, je te comprends, mais regarde, je t'en supplie. Laisse-moi encore aujourd'hui, reste encore ici aujourd'hui. C'est mon 40e jour au Kotel. Tous les matins, il faisait tout le Sefer Tehilim par cœur, d'accord, au Kotel. Tous les jours, pendant 40 jours, hormis tout ce qu'il devait faire, j'imagine, il avait pris juste à ce moment-là, il finissait ce jour-là, quand il lui a dit, je rentre, 40 jours au Kotel, tout le Sefer Tehilim. Il lui dit, bon, d'accord. Et donc, le lendemain, il s'en va. Notre Nahum s'en va et ce jeune homme reste en Israël. Il lui dit, je vais rester encore un peu et tout ça. Donc il part. Et puis, au bout d'une semaine et demie, le jeune homme aveugle, il appelle notre ami Nahum et lui dit, Nahum, reviens tout de suite en Israël, je me fiance dans une semaine. Nahum lui dit, quoi? Qu'est-ce que cette histoire? Il lui dit, reviens, je vais tout expliquer, je me fiance. Alors, Nahum, il lui dit, il revient tout de suite en Israël. Il lui dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il lui dit, tu sais, quand tu es parti, il lui a dit, je veux que tu saches, quand j'étais petit, j'étais donc dans une école pour aveugles, puisque j'étais petit, voilà. Il dit, et j'avais un ami, un très très bon ami à moi, qui était avec moi à l'école, maintenant ils sont tous aveugles. Donc personne ne voit en réalité comment chacun il a l'air. Qu'est-ce que tu vois quand tu es aveugle? Tu perçois des choses que nous ne pouvons pas percevoir. Il y a une sensibilité que nous n'avons pas. Donc quelque part tu perçois la neshama, tu perçois toutes ces midotes. Donc il lui raconte, il lui dit, j'avais un très bon ami qui avait qu'on était ensemble tout le temps ensemble jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et puis après la vie nous a séparés. Il a dit, et cet ami, il s'est avéré qu'il s'est marié et il a eu des enfants avec une aveugle. Il s'est marié avec une aveugle, il a eu des enfants. Il a dit, et je l'ai retrouvé quand tu es parti. Hachem, il me l'a mis sur ma route, je l'ai retrouvé. Donc notre aveugle, il avait peut-être 25 ans, 26 ans comme ça, ouais. Il parle et tout et il lui dit, je cherche un chidour. Bon. Alors l'aveugle, son ami lui dit, j'ai quelqu'un à te présenter. Maintenant, qui c'était cette personne? Écoutez bien l'histoire. Non, j'ai oublié quelque chose de très important, excusez-moi. Un petit peu avant de partir, comme ça, pendant les 40 jours, que nous, on ne savait pas que c'était 40 jours, un jour, ils étaient au Kotel, donc Nahum et l'aveugle. C'est ça le plus important, j'ai oublié Mechila. Est-ce que c'est une histoire qui est toute fraîche? Elle vient d'arriver. Alors, ils ont rencontré au Kotel. Nahum, il a rencontré un copain à lui au Kotel de Los Angeles. Il s'appelle Michael. Et ce Michael, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, Nahum, et tout. Il lui dit, je suis venu en Israël, ça fait 9 mois, voilà, pour trouver un chidour, machin et compagnie pour celui-là. Et il lui montre le jeune homme. Et il lui dit, donc notre ami, ce Michael, il lui dit, écoute, moi je connais un grand tzaddik. Viens. Il est ici, tu vas aller, on va aller le voir, il va lui donner une bracha. Qui c'est ce tzaddik? Rabbi Israël. Quoi, Rabbi Israël? Viens. Attends, c'est le plus important parce que si tu sais la rencontre. Alors il dit à son ami, tu suis ou tu suis pas? C'est bon? D'accord, ouais, excuse-moi. Mechila. Ah non, Rabbi Israël Baro Desser, le voilà. D'accord? Celui qui a reçu le pétek. Nanar, Tarfan, Narman, Momal. Alors, ils vont chez Rabbi Israël. Il dit, on n'a rien à perdre, de toute façon, ils arrivent chez Rabbi Israël, qui habitait à l'époque Rehov Strauss, à Jérusalem. Ça fait de ça plus de 40 ans. Il rentre là-bas et donc il lui dit, Rabbi Israël, voilà, on est venu, nana, il lui explique toute l'histoire, on a recherché, personne ne veut, on est venu des États-Unis, tout ça, on cherche un chidour. Alors Rabbi Israël, il regarde comme ça, il lui dit, tu cherches un chidour? Il lui dit, oui. Alors il lui dit, tu veux Bémet te marier? Alors il lui dit, oui, je veux me marier. Alors il lui dit, regarde, moi j'ai un livre que je veux imprimer et j'ai pas d'argent pour l'imprimer. C'était le kit V. Il lui dit, ça coûte 8 000 $. Donne-moi 8 000 $ et tu vas te marier. C'était Rabbi Israël, ça. Vous devez, après je vous parlerai de Rabbi Israël. D'accord? Il faut que vous compreniez. Attends, je fais vite une petite parenthèse. Il faut que vous compreniez. J'ai reconnu Rabbi Israël personnellement. Grâce à Dieu, on a eu le grand mérite de le recevoir à la maison. Et je peux vous dire une chose. On a eu Baruch Hashem aussi un grand mérite de connaître beaucoup, beaucoup de rabbanim dans notre vie. Mais je peux Bémet témoigner sur une chose. C'est le seul Rav que j'ai connu qui n'a jamais demandé d'argent pour lui, dans le sens où même l'argent que lui recevait de l'État en tant que vieux et tout ce que tu veux, il n'a jamais touché à cet argent. Tout ce que tu pouvais donner à Rabbi Israël, ça partait que pour les livres de Rabbi Nachman. Toute sa vie, je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est plus que magnifique, c'est géant. Vous pouvez même pas imaginer ce petit livre, ce que ça recèle comme trésor. Donc ça, c'était une petite parenthèse, ça veut dire ne croyez pas que genre, bon, je te fais le tikkun, donne-moi tant. Non, c'est pas ça. Il lui a dit, voilà, il y a ce livre, je veux l'imprimer, ça coûte 8 000. Et puis, ils se sentent mal, comme tu dis, 8 000 $. Et l'Arabe Israël, il lui dit, non, pas 8 000 $. Chidour, la guématrée, lui dit, c'est 8 340. Tu vas me donner 8 340 $ et tu vas te marier. Alors là, notre ami, il est là. Je sais pas quoi faire, 8 340 $, il n'a pas vraiment. Mais quand même, il avait de l'argent. Pourquoi? Parce que notre ami Nahum, il ramassait de l'argent pour lui, d'accord? Pour le futur mariage, pour les trucs, pour sa vie et tout ça. Donc il y avait quand même un peu d'argent. Et donc, il dit, notre ami aveugle, il dit à son ami Nahum, il lui dit, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, mais donne-le, s'il te dit que tu vas te marier, tu cherches un chidour. Et c'est vrai, notre ami aveugle, il était prêt à tout donner pour se marier. Il était prêt à payer les chatraniotes, il était prêt à payer tout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il fait un chèque, 8 340 $, il donne à Rabbi Israël pour imprimer le kit V. Donc, il lui a dit, Bezrat Hashem. Il rentre chez lui et sur la route, le bal d'Avar, bien sûr, dès que tu fais quelque chose de très grand, que ça c'est le Emet, tu penses bien qu'on ne va pas te laisser faire quelque chose comme ça. Il faut qu'on t'arrête. Alors, il rentre chez lui et il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis complètement fou, moi. Comment j'ai donné, mais toute ma fortune, je l'ai donné. Le peu que j'ai, je l'ai donné, mais je suis complètement fou. Il dit à son ami Nahum, il lui dit, Nahum, je peux pas. Viens, on retourne chez Rabbi Israël. Je suis prêt à lui donner 300-400 $, mais pas 8 340 $. Tout ce que j'ai plus rien. Alors il lui dit, mais tu sais, c'est pas grave et tout ça. Alors il lui dit, non, je veux retourner reprendre. Il revient chez Rabbi Israël. Et il lui dit, je m'excuse Rabbi Israël, je ne peux pas te donner tout cet argent. Je suis prêt à te donner un petit peu, mais pas tout ça. Et Rabbi Israël, lui, mais il était détaché de ce monde. Il n'était plus là, c'est comme un malach Hashem Rabbi Israël. Il s'en fout de ton argent. Tu ne comprends pas que c'est on te rend service à toi quand tu achètes un livre, quand tu imprimes un livre. Ce n'est pas toi qui rends service. On te rend à toi ton service. Alors Rabbi Israël, il lui dit, écoute, tu sais, je te dis la vérité, c'est pas très bien que tu as donné, que tu reprends, mais pas de problème, voilà, ton chèque, il est là, reprends-le. Notre ami repart, il rentre à la maison, et puis il y a quelque chose qui le reprend, et il dit, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il a dit, je vais donner. Et il dit à Nahum, mais comment je vais faire? Et Nahum, il lui dit, mais laisse! Moi, je t'aiderai, tu sais quoi, j'irai, je tournerai partout pour t'aider à te marier, je te donnerai, donne-lui cet argent. Il t'a dit que tu allais te marier, donne-lui cet argent. Ah, il y a rebelote. Retourne Rechov Strauss, gros vaillé-oudi, Rechov Strauss, Rabbi Israël, on revient, voilà, on redonne l'argent. Très bien, et Rabbi Israël, il ne bouge pas. Reprend, redonne, de toutes les façons. le kit V, il est là et il sera imprimé. T'inquiète pas, mon ami, il y aura quelqu'un qui aura le mérite. C'est pas toi, c'est un autre. Mais il a eu ce mérite, cet homme-là. Il lui a donné, Bassoff, tout son argent. Donc, quelques jours passent. L'autre, Nahum, qui lui dit, écoute, je ne peux plus partir. Comme je vous ai dit, je vais partir. Il lui a dit, je t'en prie, reste encore. Ce dernier jour, mets 40 jours de côté, et tout ça. Et donc, Nahum s'en va. Alors, notre ami rencontre son ancien ami aveugle de la Pnimia. Et cet ami aveugle, justement, il a sa femme, donc, vient aussi d'une Pnimia où, justement, c'était pour aveugle. On lui téléphone, le directeur de la Pnimia, qui est pour aveugle, pour des jeunes filles comme ça qui sont problémées, tout ça. Il appelle, il lui dit, écoute, voilà, on a une jeune fille à la Pnimia. Malheureusement, elle a une maladie. Les médecins, ils ont dit que d'ici 2 ou 3 semaines, elle va devenir aveugle. Et en plus de ça, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est une jeune fille, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Il a dit, regarde, donc elle va se retrouver la pauvre toute seule. Elle n'a rien. Elle a ses parents, sa mère qui est très loin aux États-Unis. Elle est ici toute seule. Alors, ce qu'on te demande, c'est prends-la chez toi. Parce que dans 2 ou 3 semaines, elle va devenir aveugle, le temps, et apprends-lui à vivre comme une aveugle. Donc, ils l'ont pris chez elle. Donc, ils l'ont pris, cette jeune fille, qui allait devenir aveugle, mais qui ne l'était pas. Et donc, ils ont commencé à lui apprendre, d'accord, à vivre comme une aveugle, l'allez-nous. Et donc, entre-temps, maintenant, lui, il a rencontré son copain, qui lui dit, je cherche un chidour. Et il lui dit, tu sais quoi? J'ai un chidour pour toi. Alors, notre ami présente l'affaire, il présente à la jeune fille l'affaire en lui disant, écoute, moi j'ai un ami, maintenant il ne sait pas lui que c'est un monstre, il sait que son ami il est aveugle, il ne sait pas à quel point il est un monstre, d'accord ? Il est aveugle. Alors il lui dit, écoute, j'ai un ami, sache que c'est un homme exceptionnel, il est Talmid Chacham, il est ceci, il a des midotes, il est tout ce que tu veux, mais il est comme moi, il est aveugle. Il lui a dit, peut-être, puisque toi aussi, tu vas l'être. Peut-être, voilà, on va faire le chidour. Alors, la jeune fille, elle dit d'accord. La présentation se fait.
Elle voit à ce moment-là.
Et donc, là, elle voit. Elle voit, mais elle est restée assise. Elle n'a pas bougé. Et elle a parlé avec ce garçon pendant 3 heures. Hormis qu'il était déformé du visage... Il avait tout, c'était son seul défaut. De taille, je suis d'accord, mais c'était son seul défaut. Et au bout de 3 heures, elle dit, je veux me marier avec lui. Elle a passé outre, ça veut dire, ce physique. Elle a regardé l'intériorité, puisque elle était en train d'apprendre à vivre avec l'intériorité, en fin de compte. Elle a passé outre. Et donc, elle a dit, je veux me fiancer. Alors, et c'est comme ça que les choses, elles se sont passées. Attends. Maintenant, elle a dit, je voudrais quand même que... Donc, bien évidemment, les gens autour d'elle, ils lui ont dit, mais tu te rends compte. Elle a dit, moi, je veux me marier avec lui. La seule chose que je veux, c'est que ma mère, elle le connaisse. Ma mère, elle ne peut pas faire tout ce trajet. Donc, ils ont décidé, ils ont dit, bon, on va faire en sorte que la mère, elle le rencontre. La mère, elle a rencontré ce jeune homme. Et là, pareil, quand elle a vu le garçon, elle est restée comme ça, mais elle a parlé avec lui. Et à la fin de la discussion, elle a dit, si ma fille l'a choisi, c'est que c'est le meilleur pour elle, alors c'est très bien, je donne mon accord. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Maintenant, donc ça déjà, on voit Bémet, la grandeur de Rabbi Israël. La grandeur, d'accord, des livres de... Qu'est-ce que tu as ? La grandeur de la diffusion, ça veut dire, c'est pas stam, ça veut dire de diffuser des livres, c'est quelque chose de très grand. Et donc, ils se sont mariés, donc il y a eu tout le monde qui était au mariage, c'était un peu, vous savez, comme si vous dites le mariage de la belle et la bête, ça veut dire, bon. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, les filles, c'est que les semaines passent, elle perd pas la vue. Et pas seulement qu'elle perd pas la vue,
elle a pu avoir des enfants.
Elle a eu un enfant. Tout ce qu'il y a de plus normal,
magnifique.
Un bel enfant, Normal. Et je vais vous dire plus que ça. Parce que maintenant, on va revenir presque 28 ans en arrière. Moi, je l'ai vu, cet enfant. Je ne savais pas. Ça veut dire, et je vais vous raconter pourquoi c'est... Quand j'ai entendu cette histoire, je tremblais. J'ai entendu cette histoire dimanche, d'accord, matin, le lendemain de la fête. Je tremblais. Alors, ils ont eu un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal, et cet enfant a eu aussi des enfants. Ça veut dire que... Et ils ont vraiment fondé cette famille. Ça veut dire, c'est le seul enfant qu'ils ont eu, il a eu d'autres enfants. Maintenant... Pourquoi ? Alors, d'abord, Bémet, que regardez la grandeur de Rabbi Israël. Comment ? Et donc, le Kitvé, d'accord, le gros livre Torah et Tfilot, qu'aujourd'hui, Bichlal, il est traduit en français. Mais le premier Kitvé, d'accord, il a été imprimé, donc, en 1986, comme ça, je crois. C'était grâce à l'argent de ce garçon. Rabbi Israël, de ce monstre aveugle. Rabbi Israël, il avait à cœur d'éditer ce livre. C'était pour lui très important. Et donc, ça a été édité grâce à cette histoire. Attends. C'était les Torahs de Rabbi Nachman, d'accord, avec les Tfilot de Rabbi Nathan.
Et mais le résumé de l'écoutez-moi, le Kitvé.
Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est Rabbi Israël, justement, qui a organisé tout ça. Attends. Maintenant, ce qu'il faut savoir, pourquoi je vous dis c'est une histoire. Donc, on voit déjà Bémet la grandeur du Tzadik, comment... Il a fallu faire tout ce chemin et ces rencontres. Ça veut dire, des fois, tu rencontres quelqu'un, tu crois que c'est Stam, alors que tout est prévu d'avance. Maintenant, moi, il y a quelques semaines...
Attends, juste un truc. Oui. Au début de l'histoire, c'est dit quand même qu'il y a un larron qui reprend l'idée. C'est le petit-fils du fils de Khan. Nahum, à la base, c'est pas ça.
Non, Nahum, c'est le monsieur c'est normal qui a voulu l'aider. Qui a reçu le dédicace, oui, parce que. C'est ça, exactement. Non, Nahum, c'est celui qui a aidé l'aveugle. Et Rabbi, c'est le chassid. Et donc, Rabbi Israël, il lui a dédicacé un kitvé, c'est normal. D'accord ? Maintenant, moi, il y a 30 ans, j'avais entendu, il y a 27 ans, 28 ans, comme ça, il y a une histoire. Et ces derniers temps, ces dernières semaines, je ne sais pas pourquoi, je disais comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a eu de cette histoire ? C'était quoi la suite de cette histoire ? Et comme ça, je disais à Hachem, j'aimerais tellement savoir la suite. Parce qu'il y a à peu près 28 ans, 27 ans, comme ça, j'étais encore toute jeune mariée. On a été avec mon mari, je me souviens, à une sorte de gala, comme ça. Et pour un, je ne sais plus ce que c'était exactement. Et dans la soirée, on nous a parlé d'un homme. On ne l'a pas vu. On nous disait, voilà, maintenant moi j'étais toute jeune, donc tu sais, les histoires, j'avais le gros, mais je ne rentrais pas dans les détails, vraiment. Et on nous disait qu'il y avait un homme qui était atteint d'une très grave maladie, qu'il était complètement difforme. Il avait un visage, on dirait un gorille, tout c'est ce que tu veux. Et qu'on nous avait dit, Mina Shamaim, il s'est marié. On ne nous a pas raconté cette histoire qu'il y avait derrière. Il s'est marié et aujourd'hui, donc, ils ont à cœur de faire des opérations aux États-Unis. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour essayer de arranger un petit peu. Donc, chacun, les gens, ils étaient là pour donner. Et moi, et il nous avait montré justement le film, d'accord, de cet homme. Et on nous avait montré, voilà, ils nous ont montré cet enfant, son enfant, qui est né donc de cette union, d'accord, avec cette jeune fille aveugle. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai vu l'enfant, mais il y a 28 ans. Et c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait des doutes il n'y a pas longtemps. Dans mon post-tam, c'est venu comme ça. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens ? Est-ce que ça a bougé quelque chose ou quoi ? Et comment Akadosh Baruch Hu, d'accord, il a fait quelque part, il est venu me rajouter les pièces au puzzle pour que je comprenne en réalité cet homme, il était malade, il avait des déformations et tout ça, mais qu'en vrai, il s'est marié, il a eu un enfant, pas Stam, parce qu'il y a eu Rabbi Israël derrière cette histoire. Et cette histoire, elle m'est venue juste au moment comme ça de Rabbi Israël. C'est une histoire de fou, vraiment. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais. Et quand la personne m'a raconté, je dis, mais attends, ce que tu dois comprendre, c'est que moi, cette histoire que tu me racontes, je connaissais qu'une seule partie de l'histoire. Maintenant, on est venu, c'est comme si Kakadosh Borou, il vient et me dit, regarde, maintenant, on va te mettre la dernière pièce qui manquait à ton puzzle pour savoir, Bémet, d'où il s'est marié, comment il s'est marié, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Baruch HaShem, tout ça pour vous dire quoi ? J'ai trouvé que c'était d'abord une très belle histoire et j'ai dit, bon, c'est une histoire que personne ne connaît sur Abisraël, donc vous êtes vraiment en avant-première aujourd'hui, parce qu'à mon avis, c'est une histoire qui va beaucoup tourner, je pense.
Sa femme,
elle n'est pas devenue aveugle.
Elle n'est pas devenue aveugle.
Elle a... Alors, écoute, je pense qu'il y a dû avoir des opérations. Parce que vraiment après il y a eu beaucoup de gens qui ont ramassé, on a donné beaucoup d'argent pour que justement on puisse donc là, tu sais quoi, Blin Eder, de toutes les façons maintenant je sais d'où ça vient, je saurai, je vais me mettre en contact avec Sonarcon pour savoir Bémet. Donc tout ça maintenant c'était pour vous raconter. Bokertov, il y a une chaise là-bas au fond, c'est pas la peine de rester, viens rentre à l'intérieur, il y a une chaise. Tu déranges personne.
Bah, c'est la chaise. Mais elle est sale, la chaise.
Voilà. Il y a ici une chaise. Tiens.
Elle est sale.
Il y a une chaise. C'est bon ? Il y a une chaise ?
Elle est sale. Elle est un peu sale, mais ça va, il y a pas mal.
Donc, tout ça, c'était important pour moi de vous raconter d'abord une histoire de Rabbi Israël, parce que Bémet, tu dis c'est Saïloula aujourd'hui, et qu'on a tendance à ne pas assez connaître Rabbi Israël. On connaît juste, on va dire, un petit peu une partie. Mais que Bémet, Rabbi Israël, c'était un très, très, très grand sadique. On ne peut pas imaginer. Il a fait, on va dire qu'il a fait vraiment un pied de nez à ce Olam Hazé, complètement. Il a tout effacé. Il ne regardait qu'une seule chose, c'était servir. Il s'est servir Rabbi Nachman et diffuser la Torah de Rabbi Nachman. Et si encore aujourd'hui, comme je l'ai dit samedi soir, si aujourd'hui, Béhémet, on a cette chance de connaître, d'accord, la Chassidou de Breslev, si on a cette chance d'avoir autant de livres de Breslev et traduits Bichlal en français, je peux vous dire que c'est grâce à Rabbi Israël, parce que tout l'argent, et je vous dis, je l'ai vu, c'est pas que je vous raconte, tout l'argent, moi, quand il était chez nous, et on l'a suivi comme ça pendant un moment, tout l'argent qu'on pouvait lui donner, hop, ça rentrait. Tu pouvais être sûr et certain, ça partait directement pour l'édition des livres. Et c'est pour ça, et c'est grâce à ça, quand il est niftar, quand Rabbi Israël, il a quitté ce monde, c'était un Motsei Shabbat, il avait 104 ans. Il était marié, il a eu des enfants, il était marié avec une femme qui était de sa déquête. Il a encore quelques enfants, tu comprends que c'était il y a longtemps. Il est.
Ah, il a encore quelques enfants.
Il a des petits enfants, bien évidemment. Et une partie, il a des petits enfants qui s'occupent, parce que quand Rabbi Israël il est nifta, il a laissé de l'argent. Il a laissé une caisse d'argent et il a dit tout cet argent, il doit servir que à l'impression des livres. Et donc il y a ses petits enfants, il y avait son petit-fils Amram Horovitz.
Le Keren
Rabbi Israël, voilà, c'est le Keren de Rabbi Israël. Mais si Linda, c'est Rabbi Israël, il a créé la plus grande yeshiva au monde. C'est une yeshiva vivante, puisque tu as des livres dans le monde entier, tu as des traductions de partout. Ça veut dire, lui, il a créé la plus grande yeshiva du monde. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, ça, c'était. Elle était alors justement, vous avez un grand mérite, les filles, parce que sa maison de retraite était à Ranana. Rabbi Israël, il a vécu ici à Ranana, exactement. Et quand il a reçu le pétek, Rabbi Israël, il a gardé le pétek, d'accord, caché, pendant 60 ans. 160 ans, le pétek, il est resté comme ça chez lui. Je vous dis, lisez vraiment ce livre, c'est passionnant de lire l'histoire de Rabbi Israël.
C'était qui le rabbe là? Il y avait un rabbe qui ressemblait à Rabbi Nachman là, pas de celui là, un autre. Tu n'as pas dit qu'il avait beaucoup d'enfants et ses enfants ils sont morts parce qu'il n'avait même pas du pain pour leur donner aux enfants.
Ça, c'est,
comment il s'appelle?
C'est Rabbi Israël.
Ça parle de lui.
C'est Rabbi Israël.
Ça, tu ne l'as pas raconté.
Alors, c'est Rabbi Israël, Bémet, qu'à l'époque.
Ça fait de la peine le pauvre.
Ouais,
et
à l'époque.
Il a survécu.
À l'époque, non, pas que lui, non. Sa femme aussi, non.
Mais la femme, elle est décédée là.
Sa femme, elle est décédée il y a longtemps, mais pas de faim.
Non, mais c'est
les
enfants. Les
enfants,
elle
mélange de Rabbi Israël et Rabbi Cardouneur.
Ah, Rabbi Israël Cardouneur, elle mélange, d'accord. Alors, il y a Rabbi Israël Cardouneur et Rabbi Israël Berodesser, pas les mêmes. Là, on te parle de Rabbi Israël Berodesser. Rabbi Israël Berodesser, il était l'élève de Rabbi Israël Cardouneur. D'accord. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que tu veux ?
Et il avait marqué ça dans le livre qu'il avait raconté qu'il avait
Il a, parce qu'il était Breslev et qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, quand tu étais Breslev, on te traitait de fou et on te punissait. Et la punition, c'était quoi? C'est qu'on va pas te donner d'argent, on va te boycotter, d'accord? Jusqu'à que tu vas abandonner Breslev. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on est là et on dit oui, Breslev, Baruch HaShem, et on a des livres. Il faut savoir que pour être arrivé à cette indépendance, croyez-moi qu'il y en a qui ont, c'est nous tous aujourd'hui. Des juifs, des chassidim, bien sûr. Parce qu'à l'époque, la chassidoute de Breslev, elle était très, très controversée, tu comprends? Parce que quand tu la touches au Emet qui va justement te faire bouger dans ta vie, les gens, ils n'ont pas envie. Ils ont envie de rester tranquillement, de pas trop se réveiller.
La chassidoute de Breslev, c'est ça, c'est d'être parler de Sadiq, même pas parler Réchaïn. C'est ça la force, c'est encore plus vicieux, je trouve. Ah.
Lui, il a survécu et les enfants.
C'est-à-dire que Bémet, que c'était pas des Réchaïm, Chas v'Shalom, qu'il n'y a pas de Réchaïm. C'était des gens, c'était que des gens, des grands tzadikis, mais c'était même des grands chassidim comme ça qui se moquaient et qui l'envoyaient balader et qui le boycottaient. Mais Rabbi Israël, lui, il est resté droit sur ses jambes, il n'a pas bougé. Il était là vraiment. Lui, il savait que ça, c'était le Hémet. Et il était prêt pour le Hémet, d'accord, parce qu'il savait en réalité, d'accord, que notre génération et les générations jusqu'à l'avenue du Mashiach, elles ne pourraient pas supporter ce monde-ci sans Chassidou Breslev. Vous savez quoi? Enlevez Breslev. Enlevez tout le message de Breslev. Vous êtes, et là, je peux vous dire, Bémet, que l'industrie pharmaceutique, elle quadruple, elle cinquuple son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que on est tous des dépressifs. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Rabbi Nachman, il a inventé le meilleur Prozac au monde. C'est un Prozac, hein? Qu'est-ce que tu as dit, Eva?
J'ai dit c'est rassurant.
C'est plus que rassurant. Tu ne te rends pas compte le cadeau qu'on a reçu. Et Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Israël, il lui a dit, c'est sur toi que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire que Rabbi Israël, en réalité, quand lui, il a fait Messirut Nefesh pendant toutes ces années, d'accord? Ou Bémet, il a été jeté, on s'est moqué de lui, ses enfants, ils n'avaient pas de quoi manger, vous pouvez. Il marque comme ça dans son livre, mes enfants n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas de vêtements. Il n'a pas pu vivre avec sa femme, d'accord? Sa femme, elle habitait, je crois, à Tzfat. Et lui, je crois qu'il était sur Tibériade parce que justement, il n'avait même pas de quoi vivre, de quoi nourrir sa famille. C'était une catastrophe. Tout ça, pas parce qu'il était incapable ou quoi, au contraire, c'est un Talmid Chacham Atzum, Rabbi Israël. Il a fait 101 fois tout le chasse, tout le Talmud, à part tout ce qu'il a fait, d'accord? Mais il a tellement, c'était à l'époque, d'accord, controversé Breslev, que Pachout, les gens, ils le punissaient de ça, jusqu'à que presque tu dis, il faut que tu abandonnes Breslev, et après on va tout te donner. D'accord? Et lui, il lâchait pas, il disait, non, je sais que ça c'est le Hémet, et moi je vais lutter. Mais il a lutté pour qui? Il a lutté pour nous. Pour nous, les générations aujourd'hui, d'accord? Où Bémet, on vit dans un monde où on veut nous tirer vers le bas. Et il y a justement, d'accord, la chassidoute et les paroles de Rabbeinu qui viennent juste pour nous relever, pour nous dire, non, tu sais quoi? Garde espoir. Garde espoir. Ne te désespère pas. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, où que tu sois encore, avance. Ne te désespère pas, ça c'est le message. Et il te dit, tu sais quoi, le meilleur remède pour ne pas te désespérer, rigole. Rigole de tout, rigole, parce qu'en réalité tout ça, c'est ch'touillotte. Et Bémet, que cette histoire qu'on a racontée de cet homme aveugle, ça c'est Bémet, je pense, vraiment la plus grande preuve au monde qui vient nous dire « En yush ba'olam klal ». Le désespoir n'existe pas. A priori, qui c'est qui peut se dire comment tu veux marier? Et qui c'est qui va s'occuper? La vérité, venez, moi je vous dis, moi la première, d'accord? Et je pense que nous toutes, on est d'accord. Quelqu'un, il vient te voir avec un dossier difficile. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, écoute, bon, tu bases que Dieu t'aide. Et Dieu avec toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, comment Kadosh Baruch Hu, il a fait les rencontres, d'accord? Entre ces deux hommes, et qu'il lui a pas dit non. Je te base pas, je vais venir. Et il est parti, il est venu en Israël. Tu vois, Bémet, à quel point, quand Hachem, des fois, il te met dans ton cœur, d'accord, une idée ou une volonté, sache que tout ça, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien éternel. Parce que tu es venu dans ce monde, tu as une mission. ne passe pas à côté de ta mission.
Parce que ce Nahum, il n'est pas... Il est pas...
Il est Chabad. Nahum, il est Chabad.
Et il est Ravitzrat, celui qui
nous a raconté l'histoire. Il est Breslev. Et il a mangé justement chez lui Shabbat. Tu comprends ce que je veux te dire ? Il y a une massorette. D'ailleurs, sache une chose. Tu sais, souvent, il y a une massorette, il y a une tradition chez les Chabadnikim. Les vieux Chabad, ils savent ça. Ils disent, nous, on a pour mission, d'accord, de faire attention au Breslev.
Ah ouais ? Ce Chabad doit être très, très âgé.
Ah oui, il est très âgé, ça c'est sûr. C'est un vieux monsieur. D'ailleurs, de ce que je comprends, quand il lui a, moi je peux comprendre, mais je, quand il lui a dit rentre chez moi, installe-toi, certainement qu'il n'y avait même pas sa femme, elle a dû mourir. Tu comprends ce que je veux te dire, parce que sinon il lui aurait pas dit rentre chez moi. Donc j'imagine, oui, bien sûr que c'est un vieux monsieur.
Parce qu'à l'époque, Rabbi Feldman de Diaby, il a soutenu Rabbi Nachman.
Ouais.
Malgré toute l'opposition qu'il y avait, le rabbinim qui était opposé à Rabbi Nachman. Il a été un des seuls à le soutenir.
D'abord, il a été un des seuls, mais ils se sont aussi, le Balatania, ils se sont rencontrés avec Rabbi Nachman. Ils ont eu une sira.
Il a transféré l'argent en Israël. Et puis il y a eu un mariage.
Il y a eu un mariage qui a été, il y a eu une union. Bon, alors même là-dessus.
Mais encore, il y a 20 ans, c'était encore. Je sais, ma soeur a rencontré son mari il y a 20 ans. Il était Breslev, il a même une photo avec Rabbi Nachman Israël. Et ben, il était très très beau. C'était un peu. Mais quand on leur parlait des Breslev, il dit attention, ta fille elle, avec un Breslev, c'est une secte. C'était vraiment très très controversé à l'époque déjà. Et oui. C'était il y a que 20 ans.
Ça l'est encore.
Toujours. Mais c'est encore.
Pour les enfants.
Il y a. Je vais te dire une chose. Une chose qu'il faut comprendre, d'accord, c'est que Breslev, ça a toujours fait peur. Même du temps de Rabbi Nachman, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être un téléphone. Même du temps, d'accord, de Rabbi Nachman, Breslev, c'était controversé. Et oui, les gens, ils ont peur. Ok, mais pourquoi ça te fait peur en réalité? Parce qu'on va te bouger. On va te bouger, ça veut dire dans tes petites habitudes. On va réveiller une conscience qui s'est endormie. Tu comprends ce qui se passe? C'est ça en réalité, Breslev. Souvent les gens, je les entends me dire, ouais, Breslev, c'est sympa, c'est cool. Je les vois danser sur les camions. Dans les feux rouges, c'est très sympathique. C'est vrai, Breslev, c'est très sympathique. C'est la danse, c'est la joie. Mais c'est aussi le réveil de ta conscience. Ça veut dire, c'est la recherche véritablement de ton intérieur, tu comprends? Et c'est surtout un vrai bitoul par rapport au tzaddik. Une vraie annulation de toi-même par rapport au tzaddik, à savoir que tu dois avoir une confiance totale dans ce que le tzaddik il te dit. Quand le tzaddik il te dit « En yush klal », Rabbeinu il t'a dit « Le désespoir n'existe pas ». Ça, c'est une phrase, d'accord, que tu dois avoir en toi et vivre avec ça. Quel que soit, qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il nous fait vivre des situations dans nos vies, quelles qu'elles soient, d'accord, que ce soit familial, professionnel, sentimental et personnel. Il te fait croire des choses, d'accord, pour te tirer vers le bas et pour te rentrer justement dans un désespoir. Et toi, ton travail, c'est quoi? C'est que tu dois te rappeler, le désespoir n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'en réalité, il y a un Boré Olam. Ce Boré Olam, il est bon. Ce Boré Olam, il nous aime. Et le Boré Olam, il a déjà tout prévu pour nous. Tout est organisé. Faut juste que nous, on reste fort dans nos idées et qu'on dise, je n'abandonne pas la lutte. Tu es venu dans ce monde, d'accord, pour travailler. Tu es venu dans ce monde, ok, pour Bessou Fauchel d'avoir réparé encore quelque chose qui manquait à ta Neshama pour faire avancer les choses. Ne t'oppose pas à ta réparation. Laisse-toi vivre. Il y avait une chose que Rabbeinu, il avait cette force, c'est qu'il laissait faire les choses. Il voulait aller à droite.
Même quand tu ne les comprends pas.
Même quand tu ne comprends pas. Mais écoute-moi, c'est quand tu ne comprends pas justement. Parce que la logique, écoute-moi. Écoute une chose, regarde une chose. La émouna, elle commence à partir du moment où justement il n'y a plus de logique et que tu ne comprends plus rien. Tant que tu comprends et que tu maîtrises ton sujet, tu n'as pas besoin d'émouna. puisque tu maîtrises et que tu comprends et que les choses elles sont claires. À partir de quand tu dois commencer justement à dire j'arrête tout, Hachem, j'ai confiance en toi. C'est toi le maître du monde. C'est toi qui sais pourquoi chaque chose elle se passe. Chaque rencontre, chaque situation, chaque... tout c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Donc je ne m'inquiète pas. Donc je n'ai pas maintenant à rentrer dans un désespoir. C'est le Yetzer Hara qui veut te faire croire, tu comprends, que tout est perdu. Regarde cet homme, aveugle, un monstre. Les gens, ils changeaient de trottoir dans la rue tellement impossible de regarder ça. Un truc, on ne peut pas imaginer tellement c'était horrible. Et lui, il avait quand même ce truc de te dire, et j'imagine bien, d'accord, qu'il savait qu'il était difforme. Mais pourtant, il n'a pas dit non, impossible, laisse tomber, je ne vais jamais me marier. Pas du tout. Oui, je vais me marier. Oui, je vais trouver. Et Hachem, il n'a pas été mitiaïque, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas désespéré. Tu comprends? Et imagine-toi, si Chas v'Shalom, il s'était désespéré, qu'est-ce qui se serait passé?
Hein? Il n'aurait pas eu le mérite de pouvoir donner l'argent.
Pour il n'aurait pas eu ce mérite. Il s'est marié, ça laisse tomber. Mais il a un mérite plus grand que tout dans ce monde et dans l'Olam Abba. Il a eu le mérite, d'accord, d'imprimer le Kitvé, de faire imprimer le Kitvé de Rabbi Nachman. Mais ça, c'est si ça se trouve, toute son histoire, c'était que pour ça. Toute son histoire, c'était que pour cette rencontre explosive. Tu comprends ce qui se passe? On peut pas. Mais tout ça, pourquoi? Parce que il s'est pas découragé. Des fois, on vous annonce des mauvaises nouvelles. On vous dit, tu sais, tu auras pas d'enfant. Alors allez, non. Tu sais quoi? Tu es malade. L'autre, voilà, elle va perdre la vue dans 3 semaines. Elle aura jamais d'enfant. Des fois, on nous dit sur un enfant, on dit, tu sais, il est très malade. Il va jamais pouvoir marcher. Il va jamais pouvoir. Laisse tomber tout ça. Un juif, il aimait à la teva. Un juif, il vit pas selon la nature et selon les statistiques. Ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Nous, on aimait à la teva. Pourquoi? Parce qu'on a justement d'abord ce koar. Ce koar, c'est quoi? C'est notre bouche. C'est notre filote. C'est noit bodedouyot avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est tellement dur. Tellement dur de parler avec Boré Olam. Parce que toute ta Yeshua, elle se trouve dans ta tefila. Combien de gens, et vous savez, ne croyez pas que c'est une question de religion ou pas de religion. Combien de fois je parle avec des gens qui sont bémettes, des gens très pieux et qui étudient et qui prient et tout ce que tu veux. Mais dès que tu leur dis, écoute, hier je parlais avec une jeune femme, bémette, elle est très très pieuse. Et je lui dis, et elle vient me voir comme ça parce que bémette, elle est dans un grand désespoir. Et alors, je lui dis, écoute, Chaval, que tu veux pas écouter, ça fait 2 ou 3 fois que tu viens chez moi. Je lui dis, je te dis la vérité, qu'est-ce que je vais te raconter? Des histoires, des machins. Je lui dis, la base de ton histoire, c'est que tu as un manque en toi. Ce manque, tu essayes de le combler par 1000 choses. Je lui dis, mais ce manque, c'est parce que, oui, tu fais la Torah, oui, tu fais les choses. Je lui dis, mais tu parles pas avec Dieu. Alors, elle me dit, mais quoi? Mais tu te rends pas compte? J'ai fait Tchouva il y a quelques années. C'est une jeune femme. Elle m'a dit, j'ai tout quitté, et j'ai fait tchouva, et tu sais, ne crois pas, j'ai fait plusieurs midrashiyot. Elle m'a dit, et chaque fois, je trouvais que c'était pas là ce qu'il fallait, et je cherchais le Emet. Elle me dit, je cherchais le Emet. Et elle demande, et elle me dit, je disais à Hachem, mais où il est le Emet? Montre-moi le Emet. Elle s'est mariée, elle a fait, et elle voit que sa rosra, elle reste toujours. Alors je lui ai dit, tu as demandé le Emet. Voilà, je viens, je t'apporte le Emet. Le Emet, c'est qu'Hachem, il veut que tu lui parles en direct. Pas à travers un livre. Je lui dis, le Emet, Hachem, il veut que tu ouvres ton cœur, que tu parles avec tes mots. Elle me dit, mais j'ai pas la force. Je lui dis, je t'en supplie. Je sais pas comment tu fais pour avoir la force de faire des télims toute la journée. Je lui dis que vraiment, c'est incroyable. Je lui dis, et t'as pas la force de parler avec Dieu? Je lui dis, écoute, c'est presque un Yetzerara ton télim. Parce qu'il t'empêche d'arriver à cette force de parler avec Dieu. Oui, Estelle? Elle est mariée avec un enfant. Qu'est-ce que tu as? Ah. Quel âge il a, Estelle?
36, 7.
Il est religieux?
Ouais, religieux, tout bien.
On a.
Eh ben, on a.
On a.
Ah,
moi aussi, j'ai.
On a. Donc.
Moi, j'ai ma sœur qui cherche aussi.
Quel âge elle a? Bah, tu peux lui dire déjà de s'inscrire sur kidushin.com.
Une liste ici à chaque
kidushin.com, c'est le site de Shidoukin qu'on a créé déjà. On a recensé toutes les personnes qui recherchent à se marier sur Kidushin. Donc dis-lui de s'inscrire.
C'est vrai, s'il y a des hommes, il faut.
Bah oui.
Il faut quand même des femmes.
Même en France, tu
vois. Dans le monde entier. Alors, attends, deux secondes.
C'est qu'ils se marient sans se connaître et si ça va pas.
Ah non, pas du tout. On est contre le divorce, Linda. Qu'est-ce qu'elle a ?
C'est très beau ce que tu racontes.
Ah, donc Hachem.
C'est merveilleux, mais bon.
Attends,
mais
alors...
Pour les
enfants,
c'est bizarre,
c'est des enfants. Mais si, je l'ai dit qu'il a des enfants.
C'est
sympa,
c'est
horrible.
Non, mais je t'ai dit que j'ai un enfant. C'est le Rav Israël qui a perdu un enfant.
C'est ça ? Il n'y avait même pas de
pain. Il n'y avait pas de goût de pain. Il a vu son enfant mourir devant lui. Oui.
Oui. Le corps de...
Ah oui, j'ai vu ça. Ouais.
Alors, alors, ouais, ils sont.
Alors, ça ne se voit pas dessus et ça ne se voit pas avec toi.
Attendez, deux secondes. Il y a.
Qui est pour, qui est contre ?
Il y a plus de. Il y a plus de. Il y a plus de 30 ans de ça. Un instant. Il y a plus de 30 ans de ça. Il y a un homme, un chassid, qui s'appelle Sharon, et qui bémet toute son histoire à lui, c'est de faire revenir Rabbi Nachman. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rigoler. Une fois, quand on habitait à Telston, donc on avait reçu Rabbi Israël à la maison et tout ça, il était parti. Et une fois, on habitait donc comme ça à Telston, et un matin, très tôt, il était peut-être 6 heures, je vois une Jeep arriver devant chez moi et ils tapent comme ça et ils me disent on veut voir Avtzion. Bon, ok. Donc je demande à mon mari, je lui dis descends. Maintenant je les vois arriver. Non, je sais qui c'est comme ça parce que je les reconnais. Ils étaient chez moi il n'y a pas longtemps quand il y avait Rabbi Israël. Alors je dis à mon mari, ils veulent te voir. Très bien. Ils descendent dans le bureau. Ils ferment la porte et j'entends, ça crie un peu, ça fait. Bon, ils ressortent. Et mon mari, je lui dis, qu'est-ce qu'il voulait ? Il me dit, tu sais pas ce qu'ils m'ont demandé ? Surtout celui qui connaît mon mari, tu vois, il est très carré comme ça. Je lui dis, quoi ? Il me dit, ils m'ont demandé de l'argent pour prendre un avion, arriver à Ouman, ils ont déjà tous les dessins,
ils veulent voler,
prendre, voler le corps de Rabbi Nachman et le rapatrier en Israël, ni vu ni connu. Je dis à mon mari, je dis, et alors t'as dit quoi ?
Bah, j'ai dit non.
Alors mon mari fait, bah, j'ai dit mais pas du tout, c'est pas possible. Mais Kitsour, ils ont quand même essayé, ils ont trouvé d'autres personnes, mais ils ont réussi, ils ont raté bien évidemment. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que Sharon, ça fait maintenant plus de 30 ans que je le connais, qui cherche à ramener le corps de Rabbeinu. Il y a des pour et il y a des contre, d'accord ? Tu me demandes ce que moi j'en pense. Moi, je suis Isha Pshuta. Moi, je dis Rabbi Nachman, il a demandé à être enterré à Ouman. Rabbi Nachman, il a vu tout ce qui allait se passer, jusqu'à tout, tu comprends. L'âme de Rabbi Nachman, elle existe depuis Briyat HaOlam, même avant en réalité, tu comprends. Donc, qui on est, enfin, moi, personnellement, je ne sais pas, d'accord.
Elle a demandé à être enterrée.
Donc c'est tout, ça veut dire qu'on peut pas. Moi je dis, s'il voulait être enterré, oui, elle est avec Ephraim
sur un chemin.
Elle est pas. Il est à Ouman. Oui, mais lui, il a volonté. Il avait cette volonté d'être enterré là-bas. Et il a fait le tikkun de tous ces morts qui étaient là-bas. N'oubliez pas que Ouman, c'est une ville où il y a eu des pogroms terribles. Il y a eu plus de 30 000. D'accord, c'était 30 000 morts qui ont été tués comme ça. Donc,
C'est quoi les années ?
L'année de Rabbi Nachman, c'est 1802. D'accord, la naissance réelle de Rabbi Nachman. 1802, comme ça, la naissance de Rabbi Nachman. Il est mort à 38 ans. Très jeune. 38 ans, très jeune. C'est pas moi, Dieu. Il est mort de la tuberculose, mais il est surtout mort parce que c'était la fin, c'était fini.
Ça se guérissait pas.
On dit que s'il avait été enterré
en Israël, à Jérusalem, personne ne sera allé.
Et Choliot, écoute, et Choliot, je ne sais pas, moi je ne fais pas trop remote. En tout cas, ce que je voulais vous dire. Non, il aurait pu, bien sûr. Bien sûr, il est venu en Israël, Rabbi.
Bien sûr.
Il est venu. Et pour savoir, juste pour information, attendez, juste pour information. Bémet, que si Rabbi Nachman il avait voulu être enterré en Israël, il aurait fait ce travail, c'était pas un problème. Agav, au cimetière de Tibériade, il y a son grand-père, d'accord, le Rav Rodenker, qui est là-bas, avec, à côté de tous les chassidim du Baal Shem Tov. Donc voilà, donc tout ça maintenant, toute cette belle histoire de Rabbi Israël. Bye, mamie, à bientôt. Si tu l'as, tu les vends, ces livres, toi ?
Ouais,
ben, celles qui veulent, vraiment, je vous dis, ramène-en la semaine prochaine, parce qu'il est pas shooté, il est royal, ce livre. Ouais, chaque fois que vous l'ouvrez, je vous promets, vous lisez, on dirait que c'est pour vous ce qui a été écrit. Tu vois, moi, je fais plein de simanim, tout ce que tu veux. C'est la vie de Rabbi Israël, mais avec tous ses enseignements.
Il y a aussi l'être à un ami.
Ibé Anachal.
Alors... c'était bien de
oui, aussi. Alors, entre autres, Rabbi Israël, il a connu, entre autres, Rabbi Israël, il a connu un des présidents de la République d'Israël qui s'appelait Zalman Shazar. Ils sont devenus de très bons amis. Il a même fait faire tchouva à Zalman Shazar. Et ils ont développé ensemble, les deux, une correspondance. Et c'est Zalman Shazar qui a édité après leur correspondance toutes les lettres que Rabbi Israël il a écrit. Ça s'appelle Lettre à un ami en français et en hébreu c'est Ibé Anachal. Tout ça maintenant pour vous dire quoi? Pourquoi est-ce que Bémet, je voulais vous raconter cette histoire? Parce que très souvent, d'accord, il y a des. On vous dit c'est bien d'imprimer les livres et Bémet, que d'imprimer les livres c'est beaucoup d'argent, on ne peut même pas imaginer, c'est. C'est un puits sans fond. À ce point-là, ben oui, puisque c'est encore et encore et encore, ce ne sera jamais assez. Tu comprends? Il faut mettre les livres partout dans le monde.
Non, mais
donc, il faut savoir.
On imprime, on écrit, on peut après. Par exemple, éditer un livre, c'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que chacune qui a eu le mérite, Baruch HaShem, de recevoir des livres, d'accord? Souvent, ici, on vient ici, on vous donne des livres et tout ça. Alors, sachez que. Vous faites partie de la grande famille de l'imprimerie, d'accord, de la diffusion des livres de Rabbi Nachman, dans le sens où on donne l'argent, on commande des livres, on distribue les livres, et vous aussi, n'hésitez jamais. C'est-à-dire, quand vous achetez un livre, n'hésitez pas à en acheter un deuxième. Pour vous dire, ben voilà, tu sais quoi, moi aussi je diffuse. Parce que la diffusion, d'abord, c'est une grande réparation dans le monde, d'accord, de diffuser les livres de Rabbi Nachman, c'est lui qui a demandé ça. Vous savez que quand il est juste avant que Rabbi Nachman ne parte de ce monde, ses chassidim, ils lui ont dit, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et Rabbi Nachman, il a dit, vous avez tout ce qu'il vous faut, d'accord? Vous avez tous mes écrits, ils vont être là avec vous jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire que, et on voit que Béhémet, Rabbi Israël, à un moment donné, Breslev s'était éteint, d'accord? C'était rare de trouver des livres de Rabbi Nachman. Et Rabbi Israël, lui, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exploser tous les compteurs. Il a fait en sorte, justement, de nous motiver à imprimer des livres. Tout ça, pourquoi? Parce que d'abord, celui qui imprime des livres, qui s'occupe de la Fatsa, il verra une grande Yeshua. Vous avez vu cet homme, d'accord? Le Kidvé, l'improbable, il s'est marié. L'improbable, sa femme qui devait devenir aveugle, parce qu'il faut dire que c'est par le srout de ce qu'il a fait dans l'imprimerie. Sa femme qui devait devenir aveugle 3 semaines après, elle n'est jamais devenue aveugle. Sa femme qui ne devait pas avoir d'enfant, d'accord, elle a eu un enfant. Ça veut dire, tu comprends de là, Bémet, la réparation de la Hafatsa, d'accord, de ce lien de diffuser. Donc ce que je voulais vous dire, c'est Bémet, même si vous avez des livres chez vous, achetez encore des livres, donnez des livres. Si vous avez pas, si vous ne touchez pas un grand public ou quoi, c'est pas grave. Donnez de l'argent. Nous, on achète encore des livres et on a fait encore imprimer des livres et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous comprenez? Ça veut dire, maman, parce que des fois, on croit, on dit, tiens, tu sais quoi, allez, je vais faire tzedaka, je vais donner pour les livres. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous vous êtes fait la plus grande tzedaka au monde. C'est pas vous qui avez fait tzedaka. Quand vous donnez de l'argent pour imprimer un livre, vous vous êtes fait la plus grande tzedaka, vous êtes sauvé vous-même, vous êtes sauvé, vous, vos enfants, et peut-être des générations entières. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pas tu dis j'ai fait une tova. Tu dois courir pour aller rechercher à diffuser des livres. Parce que quand tu diffuses un livre BMEC de Rabbi Nachman, en réalité, tu donnes à la personne, d'accord, le meilleur prosa qu'elle peut avoir. Parce que quand on te dit à chaque fois, ne désespère pas, tu es une bonne personne, recherche tes points positifs, et sache qu'Hachem t'aime, tout ça, c'est un message d'amour. Tout ça, c'est un message d'amour. Et il y a tellement d'amour à Kadosh Baruch Hu. D'accord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que malheureusement, à un moment donné, dans le monde, il y a eu comme ça un rouach, un esprit, d'accord, où on voulait quelque part nous faire passer un message. Ah, t'as fait des avérotes, il va t'arriver ça, et tu vas ça. Mais mec, tu vivais avec l'angoisse dans ton cœur. Tu vivais avec l'angoisse, tu devenais dépressif, rien qu'à penser à toutes les avérotes que tu avais pu faire. Là, on vient, on te dit, tu sais quoi, mets tout de côté. Mets tout de côté, garde espoir, Hachem, il t'aime. Hachem, en réalité, il ne regarde pas ça. Hachem, il regarde tes points positifs. Hachem, il regarde tes mitzvot, parce que tes mitzvot, elles sont à toi pour l'éternité. Ta avera, tu peux la transformer, d'accord? Tu la transformes en une seconde. Dès que tu fais tchouva, tu transformes tout en srouillotte. C'est ça le message en réalité. C'est ça qu'on veut nous faire passer. Donc, Bémet, que ça, c'est un message d'espoir. Parce que sinon, Bémet, quand tu n'écoutes pas ce message d'espoir, tu te dis, ben, à quoi bon? Pourquoi, Bémet, je fais tchouva? Puisqu'en réalité, je garde mes avérotes et on va toute ma vie me répéter, ah oui, mais tu as fait ça, tu ne peux pas faire tchouva. En d'avoir casé. Rabbeinu, il est venu et il nous a dit, sache, il y a une tchouva pour tout. Et je vais t'offrir encore un cadeau, il te dit. Je dis, moi, je t'offre le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, c'est une réparation universelle pour tous les maux, que ce soit des maux spirituels ou des maux matériels, ou les maux matériels. Habituez-vous à faire le Tikkun HaKlali. Habituez vos enfants à faire Tikkun HaKlali depuis le plus jeune âge. Depuis le plus jeune âge, et le Tikkun HaKlali, tu peux le faire le matin, le midi, le soir, dans ton lit, en pyjama, ce que tu veux. Le Tikkun HaKlali. Hana, je suis sûre que tu as un Tikkun HaKlali sur toi. Regarde, hop, voilà, grâce à Dieu, hop, ça y est, Karine a donné déjà. Voilà, qui veut encore un Tikkun HaKlali? Tiens, vas-y, donne. Je ramènerai des Tikkun HaKlali la semaine prochaine. Hana, un petit stock, je t'ai laissé, Nahon, tu as un petit stock. Donc voilà, tu peux ramener encore. Donc, j'espère Bémet que aujourd'hui donc les filles. J'espère Bémet que chacune les filles quand vous rentrez à la maison, allumez le nerf de Rabbi Israël, c'est ça il ou là aujourd'hui. N'hésitez pas à lui demander des grandes yeshuot, que ce soit spirituel ou matériel. Demandez-lui d'avoir le mérite d'aller à Ouman. On part le 28 décembre, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Inscrivez-vous. Et Mir Sachem Bémet, que son mérite nous protège. Amen. Nous et toutes nos générations. Amen.